Merci d'écouter RFI. Midi en temps universel. Il est 13h ici à Paris.
RFI Midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrak.
Bonjour. Des premières libérations d'otages israéliens attendues dimanche, jour de l'entrée en vigueur en principe du cessez-le-feu à Gaza. Le cabinet de sécurité israélien est réuni en ce moment pour un vote sur l'accord. Qui est concerné par ces libérations? Comment? On y revient dans un petit instant. Sur la liste, deux franco-israéliens, c'est ce qu'indique le président français Emmanuel Macron en visite aujourd'hui au Liban pour soutenir le nouveau chef de l'État, Joseph Aoun. Coup dur pour l'opposition au Pakistan. L'ancien Premier ministre Imran Khan a été condamné tout à l'heure à 14 ans de prison pour corruption.
RFI.
À suivre aussi, stop ou encore, en Corée du Sud, les enquêteurs demandent une prolongation de la détention du président déchu Yoon Suk-yeol. En France, les 50 ans de la loi IVG, la loi de Simone Veil pour légaliser l'avortement. Et puis aux États-Unis, des acteurs, ambassadeurs tout particuliers de Donald Trump, Mel Gibson ou encore Sylvester Stallone, nommé émissaire du président pour être, je cite, « ses yeux et ses oreilles à Hollywood ». La réunion avait été repoussée hier, mais cette fois, elle a donc bien lieu en Israël. Réunion du cabinet de sécurité pour un vote sur l'accord de cessez-le-feu annoncé avec le Hamas à Gaza. Nicolas Falaise, vous êtes notre envoyé spécial à Tel Aviv. L'accord qui prévoit aussi des libérations d'otages israéliens retenus dans le territoire. Et selon le gouvernement, ces premières libérations sont attendues à partir de dimanche.
Oui, le forum des familles des otages nous l'a confirmé ce matin. C'est bien une liste officielle de 33 noms qui a été rendue publique. 33 otages libérables par étape dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Les familles concernées ont été informées par le gouvernement israélien. Alors, précision importante, hein, on ignore si la totalité de ces 33 personnes sont en vie ou non et quel est leur état de santé s'ils sont en vie. Sur cette liste figurent deux enfants, Kfar et Ariel Bibas, 2 ans et 5 ans. Leur sort est très incertain puisque le Hamas avait annoncé leur mort à Gaza il y a de cela des mois, mais cette information n'a pas été confirmée par la suite. La mère des deux enfants apparaît aussi sur la liste. 10 femmes en tout figurent parmi ces 33 noms. Les autres sont des hommes, dont 3 octogénaires. Les deux franco-israéliens otages à Gaza font partie de ce groupe. Le président français Emmanuel Macron l'a confirmé, avec la même incertitude sur le fait que les deux hommes soient ou non encore en vie.
Nicolas Falaise, en direct de Tel Aviv. On ignore aussi dans quel ordre seront libérés ces otages. Ils pourraient être relâchés par petits groupes à plusieurs jours d'intervalle à chaque fois et en échange de Palestiniens détenus en Israël. Et puis au-delà de cette première liste de 33 noms, c'est un total de 98 personnes en vie ou décédées qui sont détenues par le Hamas dans la bande de Gaza où le cessez-le-feu devrait donc en principe entrer en vigueur dimanche.
Voilà, notre envoyé spécial à Jérusalem évoquait les déclarations d'Emmanuel Macron. Le président français s'exprime de Beyrouth où il est en visite aujourd'hui.
Oui, visite express d'Emmanuel Macron au Liban pour soutenir les nouveaux dirigeants du pays. Son homologue, le président Joseph Aoun, élu la semaine dernière. Paul Ralifé, vous êtes en direct de Beyrouth. Vous vous trouvez au palais présidentiel. Première étape politique de la visite d'Emmanuel Macron et les deux chefs d'État sont là en réunion en ce moment.
Oui, Charlotte, les deux présidents feront une déclaration de presse commune après la fin de leur entretien qui se déroule en présence de l'envoyé spécial pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, et les délégations respectives. Emmanuel Macron recevra le Premier ministre désigné Nawaf Salam à la résidence de l'ambassadeur de France en début d'après-midi et clôturera ses entretiens politiques officiels par une rencontre avec le chef du Parlement, Nabih Berri. Cet entretien avec la plus haute figure chiite de l'État revêt une importance particulière. Emmanuel Macron va tenter de rassurer Nabih Berri, qui craint une marginalisation de sa communauté et veut l'encourager à participer au nouveau gouvernement pour assurer la plus grande union nationale dans cette étape délicate de l'histoire du Liban. Dans la matinée, Emmanuel Macron s'est rendu dans le quartier emblématique de Jemmeis et à Beyrouth, durement touché par l'explosion du port en août 2020. Il a rencontré des volontaires de la Croix-Rouge, s'est mêlé à la foule et a écouté les explications sur l'état de la reconstruction de ce quartier qui renaît de ses cendres. Autre moment important de cette visite, un point ce matin sur la situation dans le sud du Liban, avec les généraux américains et français qui dirigent le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et le chef d'état-major de la force des Nations Unies déployé à la frontière avec Israël.
Paul Khalife en direct de Beyrouth et également en visite dans la capitale libanaise. Le patron de l'ONU, donc Antonio Guterres, a appelé à la fin de l'occupation, je cite, et des opérations israéliennes dans le sud du Liban. En Russie, extrémistes pour la justice, prisonniers politiques, estiment de leur côté des organisations de défense des droits de l'homme et l'opposante Yulia Navalnaya en exil. Trois avocats de son mari défunt, Alexei Navalny, ont été condamnés tout à l'heure à des peines de 3 ans et demi à 5 ans et demi de prison. La Russie qui renforce encore sa coopération avec Téhéran, le président Vladimir Poutine doit signer aujourd'hui un partenariat stratégique avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian. Un rapprochement juste avant l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Partisan Trump d'une ligne dure face à l'Iran lors de son premier mandat. Proche du président américain, le milliardaire Elon Musk, il est dans le viseur du chancelier allemand après ses prises de position dans les débats politiques en faveur de l'extrême droite en Allemagne, mais aussi en Grande-Bretagne ou encore en Espagne. Olaf Scholz dénonce une menace pour la démocratie.
D'autres ultra-riches américains ont fait appel à des pompiers privés face aux incendies qui ont ravagé Los Angeles dans l'ouest des États-Unis.
Oui, ce qui fait polémique, cela concerne les quartiers huppés, pas celui par exemple d'Altadena sur les hauteurs de LA modeste. C'était le premier quartier afro-américain historique de la ville. Notre envoyé spécial Arim Lipold y a rencontré Fred Daniels, afro-américain. Il est né à Altadena et sa maison familiale a été complètement détruite par le feu.
Ma famille a été évacuée par précaution. On s'est installé chez ma grand-mère qui a 84 ans. On s'occupait d'elle et on s'est dit qu'on devait la faire sortir avant que l'évacuation ne soit officiellement ordonné par les autorités. Vous savez, ma grand-mère a survécu à l'ouragan Katrina en 2005, aux inondations de Houston en 2017, et maintenant, sa maison a brûlé à cause des incendies. Elle en a traversé des épreuves. Moi, parmi toutes les choses que j'ai dû laisser dans la maison, je n'arrête pas de penser aux photos, ces photos papier. C'est ce qui reste. Vous voyez, et je n'en ai plus. Ces photos de vos aînés, ces photos de vos enfants qui étaient accrochés au mur, elles ont disparu. La seule chose qu'il me reste, ce sont les photos dans mon téléphone. Mais je vais faire partie de l'effort collectif avec tous les voisins du quartier pour reconstruire. Je n'ai pas envie de vivre ailleurs, alors on va y aller étape par étape pour voir comment on peut y arriver.
Voilà, témoignage de Fred Daniels à Altadena, à Los Angeles. Les feux commencent à être maîtrisés, mais à cause des substances toxiques ou encore des glissements de terrain, les autorités locales ont prévenu. Les dizaines de milliers d'habitants évacués à cause des feux vont devoir patienter au moins une semaine avant de rentrer. Pas d'achat superflu, les consommateurs chinois restent prudents et cela se ressent sur la croissance. Un taux de 5% l'an dernier, chiffre publié par le Bureau national des statistiques. C'est l'un des plus bas niveaux de ces 30 dernières années.
En Corée du Sud, le président déchu toujours muet sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale.
Yoon Suk-yeol refuse de coopérer avec les enquêteurs après son arrestation spectaculaire mercredi. Le délai pour le maintenir derrière les barreaux va expirer. Mais Célio Foretti, on vous retrouve en direct de Séoul. Mais les autorités souhaitent prolonger sa détention provisoire, c'est ça, pour 20 jours supplémentaires.
Oui, effectivement, Yoon Suk-yeol pourrait être le premier président sud-coréen arrêté pour insurrection. Les enquêteurs ont déposé une demande de mandat d'arrêt au parquet à l'encontre du président afin de le garder en cellule. Actuellement placé en garde à vue depuis mercredi pour être interrogé, Yoon Suk-yeol n'a pas souhaité répondre aux nombreuses questions des enquêteurs. Le président aurait seulement pris la parole pour demander ses repas. Pour les procureurs chargés du dossier, même sans la coopération du président, les preuves recueillies lors de l'enquête sont suffisantes pour justifier une détention pour insurrection contre l'État. Les enquêteurs justifient également leur décision par le risque que Yoon Suk-yeol ne détruise des preuves s'il était relâché. Pour les avocats du président Yoon, cette décision est injustifiée, mais le parquet doit confirmer le mandat d'arrêt dans la journée de demain. Le tribunal d'ailleurs chargé du dossier a d'ores et déjà établi un périmètre de sécurité autour du bâtiment par crainte de débordement des manifestants pro-Yoon.
Et on suivra les prochains épisodes avec vous, Célio Fioretti, en direct de Séoul.
Au Pakistan, c'est l'ancien Premier ministre Imran Khan qui a des démêlés avec la justice. Il a été condamné à 14 années de prison.
Oui, pour corruption, coup dur judiciaire pour le responsable politique, ancienne star mondiale du cricket, pour son parti et pour son épouse aussi, Bushra Bibi. Condamné dans la même affaire à Islamabad. Les précisions de Sonia Ghezali.
Le chef de l'opposition au Sénat, membre du PTI, le parti d'Imran Khan, a qualifié ce vendredi 17 janvier de jour noir. Les avocats de l'ex-premier ministre ont annoncé qu'ils feraient appel de cette condamnation pour corruption. Imran Khan, qui a été durant 4 années à la tête du gouvernement jusqu'à son éviction en avril 2022 suite à une motion de censure, est incarcéré et cité dans près de 200 affaires. Il n'a cessé, depuis son incarcération, d'accuser l'établissement, c'est-à-dire l'armée et le gouvernement, de vouloir l'exclure de la vie politique en s'acharnant sur lui via des accusations politiquement motivées. Il a réagi aujourd'hui à sa condamnation dans la salle d'audience installée dans la prison où il est incarcéré. « Je ne passerai pas d'accord ni ne chercherai à alléger ma peine », a-t-il lancé aux journalistes présents dans la salle. L'été dernier, l'ONU avait estimé que la détention d'Imran Khan était arbitraire, réclamant, je cite, « sa libération immédiate ». Un appel resté sans réponse à ce jour. Des espoirs de dialogue entre le parti d'Imran Khan et l'establishment sont nés cette semaine après une entrevue survenue entre le chef de l'armée et les chefs du PTI. Une entrevue tenue secrète mais rapportée dans la presse. La condamnation d'Imran Khan et de son épouse aujourd'hui attise encore plus les tensions politiques. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Un accord mini est qualifié d'historique par Orano en Mongolie. Le groupe public français ex-Areva a signé avec Ulaanbaatar pour l'exploitation d'un vaste gisement d'uranium et selon Paris, cela permettra de sécuriser les approvisionnements énergétiques de la France. L'actualité française est le coup d'envoi des concertations sur la réforme des retraites ce matin entre partenaires sociaux. Ces discussions promises par le Premier ministre François Bayrou, une porte ouverte qui a notamment permis au gouvernement d'échapper à la censure des socialistes hier à l'Assemblée.
L'Assemblée où Simone Veil défendait une loi historique, loi IVG promulguée il y a tout juste 50 ans.
Ce texte qui a légalisé l'avortement après des débats très très violents à l'époque et un combat porté par de nombreuses femmes, notamment au sein du mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, le MLAC, Laurence Théo.
En 1973, l'IVG est toujours illégal en France. C'est à cette date que le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, est créé. Le collectif veut faire avancer la loi sur l'IVG. Il manifeste, occupe pacifiquement des maternités. Il organise aussi des voyages à l'étranger pour les femmes voulant avorter dans les pays où la pratique est alors légale. Laure avortera à l'âge de 20 ans avec l'aide du MLAC. Elles sont plusieurs à se rendre à Amsterdam, aux Pays-Bas.
Donc on part en quart, au moins 20 femmes, je dirais. On passe la frontière avec la bienveillance donc des douaniers qui, certainement, je pense, savaient que ces femmes passaient la frontière pour venir avorter, mais sans contrôle particulier, voilà, avec une certaine indulgence ou bienveillance, je dirais. Et puis une forte, je dirais, sororité des femmes dans ce cas, cette sensation d'être ensemble et de se soutenir moralement. Le fait d'être plusieurs, de savoir qu'on venait, que les gens nous accueillaient pour ça, enfin, que c'était un travail de leur part consenti en tant que soignant, c'était important.
Dans les années 70, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception a grandement contribué à l'adoption de la loi Veil en 1975.
De nouveaux ambassadeurs très spéciaux aux États-Unis.
Oui, les acteurs Sylvester Stallone, Mel Gibson et John Voight nommés par Donald Trump, qui va retourner à la Maison-Blanche lundi, nommés donc pour le représenter entre guillemets à Hollywood, Sophie Torlotin, et cela alors que l'industrie du cinéma américain est très majoritairement démocrate.
Oui, et c'est sur son réseau Truth Social que Donald Trump a annoncé solennellement faire de John Voight, Mel Gibson et Sylvester Stallone ses, je cite, ambassadeurs particuliers dans cet endroit majeur mais très agité qu'est Hollywood. Le président élu se réjouit que ces acteurs qui cumulent 10 nominations aux Oscars et 3 trophées puissent être ses yeux et ses oreilles pour, écrit-il, retrouver l'âge d'or de l'industrie du divertissement. Ces 3 émissaires spéciaux détonnent dans un milieu progressiste, sensible au politiquement correct. À 86 ans, John Voight, le père de la superstar Angelina Jolie, est accusé d'avoir giflé l'acteur Frank Whaley lors d'un tournage il y a 4 ans. Mel Gibson, connu pour ses prises de position ultra-conservatrices, a été accusé à de nombreuses reprises d'antisémitisme, racisme, homophobie et violence conjugale. Enfin, Sylvester Stallone, dont les rôles emblématiques de Rocky et Rambo exaltent des représentations virilistes, a été accusé de viol et agression sexuelle, des accusations qu'il a démenties et qui n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires.
Bon, ces nouveaux ambassadeurs donc de Donald Trump, j'ajoute rapidement des hommages encore à David Lynch, le géant du cinéma américain, décédé hier à l'âge de 78 ans. Je vous cite un petit bout du communiqué de sa famille qui écrit « Il y a un grand vide dans le monde maintenant qu'il n'est plus avec nous, mais comme il le disait, gardez les yeux sur le donut, pas sur le trou ».
Voilà une belle leçon de David Lynch.
Sur le trou du donut, je regarde Olivier Pro.
Merci Charlotte Hydrac. Ça me rappelle la vieille blague. Vous avez donc entendu Olivier Pro, on va parler de l'actualité sportive. Et bonjour Olivier.
Et bonjour Anne, bonjour à tous, bonjour, au revoir Madame Hydrac.
Direction l'Angleterre pour commencer, pour parler foot et de cette folle prolongation de contrat d'Erling Haaland.
Oui, continuons dans la folie folle. C'est le mot dans tous les sens du terme, Anne, cette prolongation de l'attaquant norvégien de 24 ans. Folle par sa durée, voilà le cyborg d'1m95 aux 111 buts en 125 matchs liés à Manchester City jusqu'en 2034. 10 ans pour un prix estimé à 250 millions d'euros, une clause de départ estimé à 200 millions et un salaire, ça c'est ce qui intéresse, hein. Droit d'image et sponsoring compris, qui pourrait flirter avec les 60 millions d'euros annuels, une folie de plus dans le football circus, de quoi rendre Haaland super happy.
Oui, je suis super content. C'est difficile de trouver les mots parce que c'est un grand moment, mais le fait est que je suis juste heureux, c'est mon sentiment et le mot qui convient. Très fier et content et très impatient de voir ce que nous allons faire ensemble toutes ces prochaines saisons et pendant longtemps. J'ai parlé avec beaucoup de personnes et au final, cette décision n'a pas été si dure à prendre. Tout le soutien que j'ai reçu ces deux dernières années de la part des fans, des dirigeants, des grands patrons de City et de Pep, mon entraîneur, tout cela a rendu cette décision vraiment facile à prendre et je suis ravi.
Bon, pour 60 millions d'euros, on peut prendre des décisions super faciles.
On peut être content.
Voilà, il a de quoi être ravi en tout cas.
Du foot toujours en Allemagne d'abord.
Coup d'envoi ce soir de la 18e journée de Bundesliga. L'Eintracht Francfort, 3e à 9 longueurs du Bayern, reçoit un Dortmund en perdition, lui, à la 10e place. Si les aigles de Dino Topmüller réalisent une aussi belle saison, c'est en partie grâce à Omar Marmouche, l'attaquant égyptien de 25 ans, est le 2e meilleur buteur du championnat, juste derrière Harry Kane. Il a marqué 15 fois et délivré 9 passes décisives. Déjà des statistiques qui attisent les convoitises des plus grands clubs, notamment de Manchester City, bien sûr, qui cherche une doublure à Haaland au cas où. Il se dit que le pharaon pourrait partir durant ce mercato d'hiver là-bas chez les Citizens. En attendant, Dino Topmüller ne tarit pas d'éloge sur lui.
Nous verrons bien comment il va se comporter par la suite, s'il bouge ou pas. Mais honnêtement, Omar, ce n'est pas une surprise pour moi, sa façon d'être, son rendement. Je le connais depuis un an et demi et c'est vraiment un garçon formidable. Il essaye toujours de faire de son mieux pour l'équipe. Il ne se prend jamais au sérieux. Et bien sûr, il nous aide beaucoup grâce à ses qualités. Nous sommes très heureux de l'avoir. C'est un excellent joueur d'équipe. Ce n'est pas un égocentrique ou quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Et c'est très amusant de travailler avec ce type de joueurs et tous les autres.
Unheimlich viel Spaß mit ihm und auch mit allen anderen dementsprechend zusammenzuarbeiten.
Voilà. Francfort, Dortmund, coup d'envoi 19h30.
On va jouer aussi en Ligue 1 ce soir, Olivier.
Ouverture de la 18e journée également ce vendredi, 20h05 TU. Lille 5e reçoit Nice, 4e, juste avant Montpellier. Lanterne Rouge accueille Monaco, 3e, en décrépitude. Les Monégasques n'ont remporté que 2 de leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés par Reims mardi en Coupe de France. Bref, il est temps de se remettre dans le sens de la marche avant 2 dernières journées décisives en Ligue des Champions. Message lancé en conférence de presse hier par le défenseur ghanéen du Rocher, Mohamed Salissou.
Je pense que ce match contre Montpellier est très important pour l'équipe. Vous savez, en foot, tout le monde a des hauts et des bas. Pour nous, en ce moment, ce sont plutôt des bas. Nous connaissons une passe difficile, à nous de trouver comment s'en sortir. Pour cela, nous devons juste travailler tous ensemble et puis croire en nous, sur le terrain et dans la tactique du coach. Et je suis certain qu'alors nous retrouverons nos standards et une bonne forme.
Montpellier-Monaco, 18h, temps universel.
Et on termine par du tennis, c'est le début du troisième tour à l'Open d'Australie.
Avec les qualifications pour les huitièmes de finale, sans souci pour Carlos Alcaraz, l'Espagnol qui a quand même lâché son premier set. 3-7 gagnant là, en revanche, sans problème pour l'Allemand Zverev et le Serbe Djokovic. Côté français, c'est le numéro 1, Corentin Moutet, qui poursuit sa route et affrontera Zverev, numéro 2 mondial. Il menait 2-7-1 quand son compatriote Arthur Fils a dû abandonner, touché au pied. Chez les femmes, qualification des numéros 1 et 3 mondiales, Arina Sabalenka et Coco Gauff.
L'essentiel de l'actualité sportive. Merci Olivier Pron.
RFI. Le Monde à midi.
Tout de suite, on va retrouver notre invité. Bonjour Johan Michel.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut d'études et d'études de stratégie et de défense de l'Université Jean Moulin Lyon 3. On a appris ce matin que la police ukrainienne menait des perquisitions pour démanteler des réseaux qui permettent à des hommes de fuir de pays pour ne pas être enrôlés. C'est une opération spéciale qui a commencé en fait la semaine dernière. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils représentent, ces réseaux? Ils sont nombreux?
Alors, ils sont nombreux, mais c'est surtout l'ampleur des difficultés de la mobilisation en fait qui provoque cette opération de police, parce qu'il y a un gros besoin d'hommes dans les forces armées ukrainiennes et oui en fait ces réseaux sont ceux des trafics habituels mais qui là profitent de ce nouveau type de trafic permis par la guerre.
Aujourd'hui, l'armée ukrainienne ne dispose pas de suffisamment d'hommes?
Non, il y a un gros problème de mobilisation et notamment il y a un manque de fantassins dans l'infanterie. Il y a plusieurs unités, enfin de nombreuses unités sont en manque d'hommes pour pouvoir représenter réellement le potentiel qu'elles pourraient avoir au combat.
Alors aujourd'hui, tous les Ukrainiens qui sont âgés de 18 à 60 ans ont l'interdiction de quitter le pays, justement au cas où. Est-ce que ça, c'est un sujet qui fait débat dans le pays ?
Alors l'interdiction de quitter le pays, non. En fait, c'est la question de qui est touché par la mobilisation, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, il y a tout un ensemble de métiers qui sont protégés. Ça va de l'agriculture qu'il faut absolument préserver dans le but de conserver une santé économique et aussi une balance commerciale relativement correcte pour permettre l'effort de guerre. C'est aussi des métiers de la tech, c'est aussi de l'industrie d'armement. Il y a tout un ensemble de personnes qui ne sont pas mobilisées. En fait, il y a une part relativement faible de la population qui est mobilisée par rapport à ce qu'on pourrait imaginer et les images qu'on a de la Première et de la Seconde Guerre mondiale dans nos représentations, où là on était sur une personne sur 4 à une personne sur 8. Là on est sur des proportions plus faibles. Donc il y a une part non négligeable de la population qui n'est pas touchée, ce qui fait qu'il y a une question du consentement et de la légitimité de la mobilisation.
Qui suscite un débat politique notamment ?
Oui, parce que en fait, ça permet également d'avoir un débat sur la manière dont la lutte est organisée, dont l'armée répond ou pas. Ça rattache aussi aux questions de corruption, mais c'est un débat qui est surtout sur celui de l'efficacité de la mobilisation et des catégories qui l'évitent. Donc il y a forcément une question de légitimité lorsque les amis des puissants ne sont pas mobilisés, mais que les autres le sont. C'est une question classique qu'on trouve dans tous les pays qui ont une mobilisation en temps de guerre. Mais il y a une question plus spécifique qui est également celle du gâchis humain que peut être représenté par cette mobilisation, avec des questions de réforme de l'armée qui ne sont pas terminées. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a une problématique toute simple. Il y a beaucoup de gens avec qui on a pu s'entretenir qui déclarent qu'ils seraient tout à fait prêts à rejoindre les forces armées si leur sacrifice n'était pas inutile. Et en fait, il y a une question de contournement de la mobilisation, ce qui fait que des gens choisissent de devancer l'appel de manière à optimiser et leur propre mobilisation, mais aussi leur chance de survie, en par exemple rejoignant des unités de drones plutôt que des unités d'infanterie. C'est pour faire simple.
Il y a donc le choix des personnes, il y a aussi la question de l'âge qui fait débat. Je disais tout à l'heure que les Ukrainiens âgés de 18 à 60 ans avaient l'interdiction de quitter le pays. 18 ans, ça n'est pas l'âge minimum de la conscription. Actuellement, la mobilisation, elle concerne les plus de 25 ans. Ça aussi, c'est une question qui est très délicate pour Volodymyr Zelensky.
Alors, c'est une question qui rejoint celle de pourquoi les Ukrainiens se battent. Et en fait, c'est la question de la survie de la nation. Il y a eu une énorme baisse des naissances dans tous les pays d'ex-URSS, mais donc également en Ukraine dans les années 90 et début des années 2000, du fait de la crise économique persistante. Il y a eu une vraie baisse de la population et de la démographie. Ce qui fait qu'il y a finalement aussi une question qui se pose à long terme. Si cette tranche d'âge est surmobilisée, il y a un problème de survie de la nation qui va se poser de façon très concrète. Je veux dire, la question qui fera les enfants demain se pose. Donc, en fait, le décaler à au-delà de 25 ans la mobilisation, ce qui est également une pratique qu'on observe en Russie, permet de s'assurer, je veux dire de manière très crue, mais que les gens ont le temps de faire des enfants avant d'être mobilisés.
C'est ça qui empêche Volodymyr Zelensky d'abaisser encore l'âge de la conscription, parce que les Américains font pression pour que cet âge soit abaissé à 18 ans. C'était le cas d'administration Biden. A priori, Donald Trump devrait être sur la même ligne. Son émissaire a déjà fait passer le message avant même l'investiture de Donald Trump lundi prochain. C'est ça qui bloque le renouvellement démographique, où il y a aussi une question de politique intérieure et de popularité pour Volodymyr Zelensky?
Alors, de toute façon, toute forme de mobilisation, qu'elle soit économique ou humaine, pose des questions de créer une tension sociale, toujours, entre les différentes parties de la société. Encore une fois, c'est pas juste la question de mobiliser, c'est qui on mobilise et qui ne l'est pas, qui crée des tensions dans n'importe quelle société. Mais également, ça augmente le coût qui est porté par la société ukrainienne. Et dès qu'on augmente le coût, on pose la question de comment soit l'argent, soit les hommes sont dépensés, et on en revient à la question de l'inefficacité de certaines réformes militaires ou du fait qu'elles ne soient pas poussées jusqu'au bout. Donc en fait, c'est vraiment une question d'efficacité de la politique publique à hauteur du sacrifice, si vous voulez.
Merci beaucoup. Merci Johan Michel, chercheur à l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Jean Moulin, Lyon 3. L'avenir de l'Ukraine, ce sera l'un des sujets qui devrait occuper rapidement le nouveau président américain qui retrouvera la Maison Blanche lundi donc. Et en ce qui concerne la politique intérieure, il y a deux priorités pour lui, l'immigration et des coupes franches dans les dépenses publiques. Il a même créé un département pour cela, mis dans les mains d'Elon Musk. Et ça inquiète beaucoup les fonctionnaires, Guillaume Nodin.
Nous sommes dans un parc de Washington, loin du Pentagone, où travaille la femme avec laquelle nous avons rendez-vous. Elle se fait appeler Lucie, mais ce n'est pas son vrai nom. Cette haut responsable du ministère de la Défense va quitter ses fonctions et elle veut bien parler, mais sous couvert d'anonymat, pour expliquer que les milliers de fonctionnaires fédéraux qu'elle dirige sont inquiets.
Les gens sont affolés, très très tendus, sont très inquiets de perdre leur boulot. Ils s'inquiètent aussi beaucoup du Doge. Est-ce que ça va vraiment exister? Est-ce que ça va peser beaucoup? Ils ont l'impression qu'Elon Musk a le Pentagone dans le collimateur, ce qui est assez ironique parce que nous avons financé beaucoup de ces entreprises. Nous subventionnons SpaceX en quelque sorte. Alors c'est quand même bizarre de nous attaquer.
La défense n'est pas le seul domaine qui est dans le viseur. Billy, ce n'est pas non plus son vrai nom, et il a tenu à ce que sa voix soit modifiée, travaille lui pour l'Agence de protection de l'environnement, il s'attend au pire.
Je m'attends à des choses comme l'obligation de revenir en présentiel au bureau, peut-être des déménagements, des agences déplacées, des bâtiments où elles sont installées depuis des décennies vers de nouvelles villes, peut-être des licenciements. Il y a de la peur. Je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et je pense qu'il y a aussi un peu de résignation, particulièrement pour les gens qui ont connu la première présidence Trump. Il y a un sentiment de déjà-vu.
Il y a une raison à toutes ces précautions, à ce choix de ne pas parler à visage découvert, c'est de ne pas être spécifiquement visé. Tim Washington travaille dans une organisation qui protège les lanceurs d'alerte du secteur de l'environnement.
Cette administration a des listes de personnes à viser. C'est très inquiétant. Et c'est sans précédent. Et c'est généralement basé sur les convictions personnelles de chacun et non sur les qualités de fonctionnaire. Par exemple, la Heritage Foundation a demandé des informations sur les mots que les fonctionnaires ont utilisés dans leur courriel. Il y a par exemple « changement climatique »,« orientation sexuelle », »,« transgenre ». Il y a toute une série de mots dans leurs demandes sur des employés qui ont utilisé ces mots avec l'idée qu'ils ne seraient pas loyaux au président Trump.
Elon Musk promet de faire maigrir l'État fédéral pour atteindre les 2 000 milliards de dollars d'économies. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Washington, où il est 7h30, quasiment dans quelques secondes. Vous restez avec nous sur RFI. Tout de suite, l'actualité africaine.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, de la Zambie à l'Italie et de la Tunisie à la Géorgie, entre soul, folk, rage et lovers rock, on affirme haut et fort nos désirs et on s'unit contre l'oppression. Action.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.